BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoz.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce club BFM Crypto avec mes invités Loïc Santel, fondateur de Conta Crypto. Bonjour Loïc.
Bonjour Sandra.
Pauline Armandet, journaliste BFM Business. Bonjour Pauline. Et Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. On va parler de fiscalité, on va parler de quantique, on va parler d'événements. On a plein de choses à dire évidemment dans cette émission. Vous continuez à nous poser vos questions sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Le club, c'est parti. Et pour commencer, Grégory, cette information, on en a parlé hier comme quoi ça allait tomber, c'est tombé effectivement, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Les Français qui détiennent au moins 5000 euros sur des cold wallets vont devoir le communiquer au fisc. C'est un vote de l'Assemblée nationale qui a entériné ça.
Oui, c'est ça, ça a été voté hier soir, on en parle depuis quelques mois, bon, ça y est, c'est voté. Mais bon, par contre, je tiens à rassurer les personnes qui pourraient un peu s'énerver vis-à-vis de cette nouvelle-là. Normalement, selon mes sources en commission mixte paritaire, cette mesure devrait être retirée. Il faut dire qu'elle tombe à un timing qui n'est pas vraiment favorable en fait, pour faire passer ce genre de mesure. On le sait, il y a une vague qui touche une vague d'agression qui touche les détenteurs de crypto-actifs. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de fuites de données au sein de l'administration. Donc ces deux éléments combinés font que si ce genre de mesure passe en France, ça passera un peu plus tard. En tout cas, là, pour l'instant, on devrait privilégier le statu quo. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, le texte de loi considère que avoir des cryptos sur son wallet Ledger, par exemple, c'est comme avoir un compte en Suisse. Alors que c'est plutôt proche, c'est plus proche que de quelqu'un qui a un lingot chez lui ou une œuvre d'art. Et ça, on ne doit pas forcément le signaler au fisc tous les ans. Donc il y a ce genre d'éléments quand même qui mériterait d'être éclairci.
Si ça passe, voilà, vous dites, vous n'y croyez pas. Mais si ça passe, ça va quand même extrêmement loin dans la surveillance, Loïc.
Oui, c'est sûr que là, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup, ouais, effectivement.
C'est vrai je pense qu'ils cherchent un peu un équilibre entre avoir une forme de traçabilité quand même pour qu'il n'y ait pas trop de fuites au niveau des capitaux et surtout au niveau de la fiscalité. Et en même temps, sans aller trop loin non plus pour ne pas mettre en danger les gens au niveau de leur sécurité. Donc, à voir après s'ils arrivent à trouver la juste mesure, mais
fiscalement c'est quand même l'intérêt, c'est évidemment d'avoir un regard sur absolument tous les actifs possibles des Français de plus en plus finalement, mais ce serait pas réellement utile. Ça veut pas dire que c'est imposable non plus. Enfin c'est pas imposable hein, si c'est du déclaratif, mais en fait après il y a pas d'action qui s'ensuit.
Non, mais pour eux, c'est l'idéal, parce que vraiment, la boucle est bouclée à ce moment-là, parce qu'au final, on voit qu'il y a d'un côté d'Acquit, donc on a les plateformes qui communiquent. Après, il y a également tout ce qui va être en lien avec la facturation électronique qui va aussi arriver. Et donc là, on aura la partie fiat en plus.
Oui, on va y revenir.
Et si après, on a en plus de ça, le stockage à froid, là, c'est bon, on a tout. Et donc, dès qu'on veut diligenter un contrôle aléatoire ou automatique, on peut le faire.
Après, si jamais ça passait, il faudrait voir comment le décret est écrit. Est-ce qu'il faut juste dire qu'on a telle somme ou plus de 5000 euros sur des wallets self-custody, ou est-ce qu'il faudrait donner les adresses publiques qui mènent à ces wallets? Il y a quand même un champ des possibles qui est quand même assez important.
En termes de fiscalité, le champ des possibles est rarement en notre faveur, non, Grégory Raymond. Enfin bon, je préfère vous croire et on va suivre effectivement ça pour voir si ça passe ou pas. Vous vouliez revenir par ailleurs sur la menace du quantique, sur les blockchains, une étude de Google. On parle de quel risque concrètement, Grégory?
Alors pour vous donner un peu de contexte, j'ai été la semaine dernière à ETCC, qui est la grande conférence européenne de la communauté Ethereum. Et quand Google a sorti ce papier de recherche, c'était dans la soirée le mardi dernier, il me semble. En fait, tout le monde s'est mis à parler de ce sujet-là. En fait, la menace quantique, elle est quand même présente dans l'écosystème des blockchains depuis un moment. Mais on se dit, oh là là, c'est dans très longtemps, on a le temps de se préparer et tout. En gros, c'est un peu comme quand il faut s'occuper de réduire la dette publique en France, on se dit c'est les générations futures qui s'en occuperont. Ouais. Sauf qu'en fait Google dit que en fait grâce à un nouveau travail de recherche, un nouvel algorithme, on pourrait en fait casser le chiffrement des blockchains avec beaucoup moins de capacité que prévu. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est pas demain hein, qu'on va casser la blockchain Bitcoin, mais ça se rapproche et du coup il y a une histoire de confiance en fait qui s'érode dans la protection qu'on peut avoir dans les blockchains. Donc, voilà, c'était l'un des grands sujets de la semaine dernière.
On parle de quelle échéance et de quelle puissance de calcul pour mettre à mal des grosses blockchains genre Bitcoin ou Ethereum par exemple.
Ça c'est des choses que Google ne précise pas. Ils disent juste qu'en fait on a besoin de 10 fois moins de puissance puissance à peu près. Donc là, je vous passe les détails techniques hein, sur le quantique, mais c'est en tout cas ça a fait beaucoup de bruit dans la communauté des cryptographes.
Ce serait la Bitcoin qui serait la plus menacée?
Alors, on parle surtout de Bitcoin parce que c'est la première blockchain, c'est celle qui mobilise le plus de valeur. Mais en réalité, toutes les blockchains sont concernées, Ethereum aussi. Alors, à la marge, on peut quand même parler de certains projets qui sont quantique résistants, quantum résistants, comme on dit en anglais. C'est le projet Starknet qui utilise les Stark. Donc voilà, ce sont des systèmes en fait qui protègent en fait des attaques des ordinateurs quantiques. Il y a aussi d'une certaine manière aussi le projet Algorand, mais en gros, pour simplifier, toutes les blockchains sont en danger et si elles veulent se protéger, il faut migrer vers des systèmes de signature résistants aux attaques quantiques.
Pour Bitcoin spécifiquement, ce serait quoi les différents scénarios possibles ?
Alors, il y en a plusieurs. Alors déjà, vous savez que il faudrait migrer tous les bitcoins vers donc une nouvelle blockchain résistante au quantique. Et en fait, pour tout migrer sur un nouveau système, déjà, ça prendrait 8 mois. Donc pendant 8 mois, en fait, on pourrait faire aucune autre transaction que celle des migrations. Donc ça pose déjà un problème. Et si on voulait passer au post-quantique sur Bitcoin, ça prendrait en fait des années à mettre en place. Et aussi, vous savez très bien que sur tous les Bitcoins, il y en a une partie qui ont été perdues. On a égaré les clés privées ou alors le propriétaire est mort. Donc en gros, il y a à peu près 4 millions de Bitcoins qui pourraient en fait ne pas être migrés. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces Bitcoins-là? On peut juste attendre qu'ils se fassent attaquer. On peut les considérer comme perdus. Et donc, c'est-à-dire que sur la nouvelle blockchain Bitcoin, il n'y en aurait pas 21 millions, il n'y en aurait que 16 millions. Ou alors, on pourrait en réémettre. Et donc, le dernier Bitcoin qui est censé être créé en 2140, en fait, on pourrait décaler l'échéance et on pourrait offrir un délai aux mineurs pour en fait avoir plus de Bitcoin en récompense parce qu'il faudrait en créer des nouveaux. Tout ça promet énormément de débats dans cette communauté qui est quand même assez conservatrice.
Oui, c'est vrai.
Il y a aussi la possibilité de faire un hard fork, donc c'est-à-dire quelqu'un qui décide que on va créer un nouveau Bitcoin à partir de l'existant, mais on va créer une branche un peu concurrente. Et là, ça sera en fait à la communauté de dire quel est le vrai Bitcoin. Est-ce que c'est ce nouveau Bitcoin ou est-ce que le Bitcoin historique qui est plus fragile vis-à-vis des attaques quantiques?
Concernant les Bitcoins disparus, j'ai lu qu'il y avait une inquiétude sur ceux de Satoshi, notamment.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, étant donné qu'ils n'ont jamais été bougés, qu'ils n'ont jamais été, pour simplifier, mis à jour,
ouais.
Effectivement, on peut les attaquer plus simplement, mais ce ne sont pas les seuls. Hein. Et effectivement, en fait, pour attaquer, la façon la plus simple dont on pourrait s'y prendre, c'est quand on fait une transaction. En fait, le temps qu'une transaction sur la blockchain Bitcoin soit validée, il y a à peu près 10 minutes. Et en fait, pendant ces 10 minutes-là, on ferait travailler un ordinateur quantique qui pourrait en fait faire atterrir les Bitcoins sur une autre adresse.
Ouais. J'ai vu que c'était effectivement une étude de Google. Ça dit quelque chose de cette étude? Est-ce que Google a un intérêt à sortir ce genre de... Finalement, à immiscer le doute dans nos esprits?
La plupart des études qui ont été faites ces dernières années, en fait, les gens qui disaient ça, qui faisaient peur sur le quantique, ils avaient souvent quelque chose à vendre. Hein. Là, ce qui est intéressant, c'est que Google n'a rien à vendre. Ils n'ont pas de blockchain post-quantique à proposer. Par contre, je pense qu'ils veulent affirmer qui sont les leaders en fait sur ce genre de réflexion, et eux ils ont annoncé qu'ils allaient faire migrer leur propre système sur des choses résistantes au quantique d'ici 2029, donc c'est demain.
Vous l'avez dit, par contre, ça érode la confiance malgré tout. Est-ce que ça pourrait mettre en danger finalement et remettre en cause l'intérêt qu'ont les institutionnels pour cette technologie, éroder leur confiance à eux qui ont tellement fait évoluer le système ces derniers mois?
Tout dépend qu'ils écoutent, hein, parce qu'il y a une grosse partie de la communauté Bitcoin qui estime qu'en fait on joue à se faire peur, que l'ordinateur quantique n'arrivera pas avant très 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 longtemps, voire n'arrivera jamais. C'est une possibilité aussi, mais il y a toujours un risque en fait. Et ce qu'on veut faire basculer tout le système financier international sur quelque chose qui pourrait être fragile, je sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est une question qu'on doit se poser. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a un travail de recherche qui alerte sur ce sujet-là, quelque part c'est une petite musique qui effrite en fait la confiance qui peut y avoir là-dedans. Et juste pour revenir sur le sujet quantique, à quoi ça sert un ordinateur quantique? Ça va pas, c'est pas un ordinateur qui va remplacer nos ordinateurs classiques. Ça sert surtout à casser le chiffrement, à casser la cryptographie. Et les blockchains reposent surtout sur la cryptographie. Donc les blockchains seraient les premières victimes en fait d'un ordinateur quantique.
À suivre, effectivement. On va parler avec vous de chiffres, Loïc, comme à chaque fois. Vous l'avez dit tout à l'heure, la DAC 8, la facturation électronique, c'est deux nouveautés de 2026. La DAC 8, c'est depuis janvier. La facturation électronique, c'est là maintenant. Ce sont les nouveautés. Bref, une traçabilité totale.
Ouais, exactement. Et après, comme le disait hier Alexandre Sachenko et Stéphanie aussi, vous en parliez déjà un petit peu, mais ça va être des données qui vont être communiquées donc à partir du 1er janvier 2026, mais ce sera certainement valable pour l'année 2027. En année 2027 sur cette année 2026.
Oui.
Il y a tout ce travail que les exchanges commencent à mettre en place. La facturation électronique, par contre, c'est un vrai sujet. Donc là, maintenant, toutes les entreprises doivent agréer à des plateformes qu'on appelle PDP pour justement envoyer toutes leurs factures. Donc là, il y a une traçabilité au niveau du fiat, au niveau des cryptos, et on l'espère pas, mais au niveau des cold wallets, comme on le disait tout à l'heure. Donc là, il y a un maillage total. Et puis nous, on voit vraiment aussi une explosion des contrôles. Là, les contrôles fiscaux, il y en a de plus en plus. On est sur un État qui est très entêté, comme on le sait tous, et donc cherche de l'argent là où il peut le trouver. Et si vous voulez, tous ces moyens de contrôle fait qu'il va être plus rentable dans son compte. Le fisc va être plus rentable dans ses contrôles parce qu'il va réduire son coût derrière pour chacun des contrôles via cette automatisation. Et donc là, derrière, c'est là où ils vont venir mettre des petits patterns automatiques. Nous, on voit par exemple trop de porteurs de projets, par exemple, quand ils créent leur projet, ils mettent dans le nom de l'entreprise ou dans la raison sociale le mot bloc, le mot chain, le mot crypto. Ça, c'est à bannir pour tout le monde parce que c'est un indicateur de choix pour le fisc.
C'est une réalité que finalement, les gens qui ont des comptes crypto sont plus observés en ce moment par l'administration fiscale, parce que vous avez un chiffre, les contrôles effectivement ont explosé, vous avez un chiffre très récent, mais c'est eux qu'on regarde spécifiquement ?
Je dirais pas qu'on regarde eux spécifiquement, mais c'est une cible de choix, parce que forcément, le fisc et même l'État de manière générale connaissent un peu, et même parfois par une forme de méconnaissance de leur part, ont tendance à se dire les personnes qui utilisent la crypto, c'est des personnes qui font des choses un petit peu...
C'est encore un peu suspect.
Borders,
ouais,
suspect.
Ouais.
Et donc, allons voir quand même ce qu'ils font. Donc, après, bon, la stat qui est sur les contrôles fiscaux qui est assez intéressante, c'est que 80% des contrôles fiscaux, généralement, sont issus de la délation. Donc, faut vraiment faire attention de bien garder des bons rapports. Heureusement, tous les quatre, on n'a pas d'animosité entre nous, donc ça va. Mais oui. Généralement, c'est par la délation qu'il y a le plus de contrôle aujourd'hui.
On l'a dit, effectivement, la période de déclaration fiscale ouvre demain jusqu'au mois de juin. J'aimerais bien quand même, je sais qu'on va le dire souvent dans les mois qui viennent et dans les semaines qui viennent, mais je trouve que c'est très important parce que j'avais quand même ce sentiment l'année dernière que les choses par rapport à l'administration fiscale n'étaient pas très claires, que c'était très complexe. Donc, rappelez-nous ce qu'il faut faire quand on détient des cryptos, vraiment en priorité, faire très attention à ce qu'on déclare.
Alors déjà, il y a les comptes détenus à l'étranger, ça, on le rappelle pas assez souvent, donc dès qu'on a un compte ouvert, il faut le déclarer. Ensuite, on doit calculer sa plus ou moins value et donc déclarer quand on a eu des plus-values issues de cessions en euros. Donc, c'est uniquement quand on vend des crypto-monnaies en euros ou qu'on paye un bien ou un service en euros. Donc là, il faut lister toutes ces ventes sur le site des impôts.
Il y a un listing quand vous avez fait ces opérations de la part des plateformes.
C'est ça. Alors, les plateformes le fournissent. Alors après, c'est surtout le calcul qui est complexe à faire.
Oui.
Et donc, c'est là où après, alors moi ou mes concurrents ont fourni ce type de service pour faire ce calcul. Et après, derrière, on a directement après la liste à lister. Nous, on est en train de développer une technologie actuellement qu'on va fournir aux exchanges directement pour que les clients qui sont monoplateforme, c'est-à-dire qu'ils sont uniquement dans une seule plateforme et qu'ils n'ont que des cryptoactifs à cet endroit-là, l'exchange va pouvoir proposer directement la déclaration à ses clients. Et pour les clients, par contre, qui ont plusieurs plateformes, il faudra qu'ils viennent chez nous directement pour connecter les différentes plateformes parce que les exchanges ne vont pas payer pour la plateforme d'un concurrent, bien sûr.
Vous avez vu le nombre de demandes augmenter pour justement des opérations par rapport au fisc, des déclarations sur les dernières années. Vous voyez qu'il y a une adoption et qu'il y a aussi une volonté de la part des investisseurs de bien faire, de bien déclarer, de ne pas se faire avoir.
Alors nous, on est vraiment tributaire du marché parce qu'en soi, quand on doit déclarer, c'est quand on a fait des ventes en euros. Donc là, typiquement, cette année, on a eu un début d'année 2025 avec un peu de performance, donc des gens ont vendu. Et ça, c'est un point très important que les gens doivent bien comprendre, c'est que parfois, il faut également vendre en euros aussi quand on est en perte sur une année, on a également fait des gains en début d'année. Parce que, on en a déjà parlé pendant une précédente émission, mais si on ne vend pas et qu'on reste sur du latent, l'imposition, elle se fait que lorsqu'on passe en euros. Mmh. Donc, si on a vendu en plus-value en début d'année en euros des positions qui étaient gagnantes et qu'en fin d'année, on a eu des positions latentes perdantes, eh bien, il faut accuser sa perte, sinon vous paierez des impôts sur les cessions en plus-value que vous avez fait à la fin de l'année. Et ça, les gens doivent bien le comprendre parce que souvent, quand on est en perte, on dit « Oh là, oh, je fais rien, je reste où je suis, j'attends que ça remonte. »
Alors
et
que ça
parfois,
compense.
Il faut le mettre pour éviter de payer ses impôts sur les plus-values qu'on a vendues en début d'année.
C'est quand même compliqué, hein, tout ça.
Ouais, ça reste très compliqué. Effectivement, vous disiez que les plateformes devaient fournir finalement les opérations au fisc, mais ce n'est pas à partir de l'année prochaine, ça ? Ce ne serait pas encore aujourd'hui aux contribuables de le faire ?
Non. Alors là, à partir du 1er janvier 2026, les plateformes, après, donc sur cette base-là, vont communiquer les transactions et l'identité de ces porteurs-là. Après, historiquement, c'était justement que quand on déclarait ce compte qu'il pouvait y avoir des contrôles aléatoires. Mais maintenant, à partir du moment où ils auront les transactions, là, derrière, après, ils peuvent faire leur contrôle mathématique. Et c'est là où vraiment le risque est, quoi.
C'est hyper compliqué, comme l'a dit Grégory. Et les pros, les professionnels, ne sont pas tous encore complètement aguerris à ce sujet-là. Vous les appelez les professionnels du chiffre. Oui. C'est les comptables, c'est les notaires, c'est les avocats fiscalistes. Ils s'y mettent, mais ils ne s'y mettent pas tous.
C'est un peu le problème, c'est qu'on a le fisc qui avance, et qui avance vite. En tout cas, avec leur nouvelle technologie qui est issue des lois qu'ils passent ou ne passent pas. Mais par contre, après, derrière, nos vrais supports en tant que professionnels ou en tant que particuliers, ce sont soit les avocats fiscalistes, soit les comptables quand on investit avec une entreprise. Et donc, c'est à eux de nous défendre. Et donc, si eux ne comprennent pas le sous-jacent, comment ça se passe avec cette technologie et l'investissement que leurs clients ont fait... Malheureusement, c'est compliqué pour eux de se défendre. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de prise de conscience de ces professionnels-là. Alors, on en a certains. Nous, on travaille avec certains qui se sont spécialisés là-dedans, ou tout du moins qui ouvrent leur chakra à ça. Mais on sent que c'est on avance un peu à demi-teinte. Et ça, on a quand même 12 millions de Français qui en ont aujourd'hui, quasiment.
C'est ça. On va voir les chiffres de la DAN officielle demain, effectivement, mais ça tourne a priori autour de ça. Ça ferait une légère augmentation pour le coup. Juste un dernier sujet sur la détention crypto, pardon, sur le paiement en crypto qui se démocratise. Mais il y a un décalage finalement avec la réalité fiscale aussi. On a commencé à en parler hier sur ce plateau avec Alexandre.
Ça fait un frein. Effectivement, c'est ce que je reprends un peu ce que disait Alexandre hier, mais aujourd'hui, la technologie avance plus vite que cette fiscalité. Et donc, forcément, quand on a des porteurs de projets qui doivent vendre ce type de technologie à des entreprises ou quoi, forcément, cette objection, elle doit arriver en ligne de compte en disant « Mais moi, comment mon commissaire aux comptes, il va rentrer ça dans les comptes ?»
Ouais.
Et donc, je suis OK sur le principe de la technologie, mais derrière, il faut que ça suive. Et donc, ça, là-dessus, à partir du moment, encore une fois, où ces professionnels du chiffre ne seront pas formés à ça, ça mettra un frein à l'adoption de cette technologie, ce qui est vraiment dommage.
Mais pour connaître ces professionnels, il faut regarder cette émission. Grégory.
La semaine dernière, j'ai rencontré David Lisnard à Cannes, qui est le maire de Cannes et récent nouveau candidat à l'élection présidentielle. Lui, en fait, il propose de s'aligner sur le modèle de la fiscalité allemande pour les cryptos. Donc, c'est-à-dire plus de fiscalité au bout d'un an de détention. Oui. Donc, en gros, on sanctionne les traders, ceux qui font de la spéculation intensive, et en fait, les épargnants un peu plus normaux, ceux-là, en fait, on les sauve de la fiscalité, on va dire. C'est plutôt intéressant et ça a le bénéfice d'être simple.
C'est une flat tax à 15% la première année, effectivement, c'est quand même assez intéressant. Ça fait rêver dans cette émission. On verra bien ce qui se passe effectivement dans cette élection. Pour faire le lien, on va parler des Américains. C'était votre deuxième sujet à la base, Pauline. Mais pour le coup, on parle aussi d'imposition. La moitié des Américains qui ont des crypto-monnaies ne savent pas justement à quel moment elles sont imposables. Ils sont visiblement moins traumatisés que nous par leur fiscalité, Pauline.
Oui, c'est ce qui ressort d'une étude en fait menée auprès de 3000 investisseurs américains par le géant des cryptos Coinbase. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, il y a quand même 80% des Américains qui savent que leurs cryptos sont imposables. Mais par contre, ils ne savent pas forcément quelle activité, quelle transaction l'est vraiment. Et donc, on a donc cette moitié des Américains qui savent que les cryptos sont imposables lorsqu'ils effectuent une vente, d'une crypto contre de la monnaie traditionnelle. Mais par exemple, il y en a quand même plus de 25% qui pensent que les cryptos sont imposables, notamment lorsque ils font simplement un transfert d'une crypto vers un autre compte crypto. Et donc, c'est vrai que ça pose quand même quelques questions, puisqu'on sait quand même que les États-Unis, c'est notamment un des pays occidentaux où le taux d'adoption des cryptos est le plus fort, entre 15 et 20% de la population. Donc, si ils ne sont pas forcément au fait de l'imposition, on se demande comment ça peut être aussi dans les autres pays et comment ça peut être aussi un frein à l'adoption des cryptos.
Nous, on le rappelle, deux cas de figure, Grégory, pardon.
À noter que les Américains, je crois, ont un système fiscal beaucoup plus complexe que les Français parce que eux sont imposables même pour les transactions en stablecoin. Nous, quand c'est crypto, on est plutôt protégé. Enfin, il y a rien à déclarer. Ouais. Eux, c'est n'importe quelle transaction.
Oui, effectivement. Enfin, lui, il va pouvoir confirmer. Mais on sait les cas de figure où en France où finalement on est imposable, Pauline.
Oui, vraiment pour le coup, c'est assez clair. Lorsqu'on va vendre ces cryptos contre des monnaies traditionnelles, là, c'est le cas. Lorsqu'on va acheter un bien ou un service en crypto, donc typiquement quand vous allez au resto, vous payez en crypto, il faut quand même aussi pouvoir le déclarer.
Oui.
Et ce qui n'est pas du tout imposable, pour le coup, c'est assez clair aussi aujourd'hui, échanger ces cryptos contre d'autres cryptos, on est d'accord. Et typiquement, conserver ces cryptos sur un portefeuille froid, même s'il y a un débat en cours. En tout cas, pour 2026, ce ne sera pas
le cas. On peut le dire là, pour le moment.
On verra ce qui se passe par rapport au Sénat, oui. Mais c'est quand même malheureusement un sujet qui est assez problématique.
Et pour les achats en crypto, dans la limite de 305 euros.
Oui, c'est ça, exactement. Après, il y a un point quand même qui est intéressant, c'est que même technologiquement, le fisc, il n'est pas encore prêt à tout ça, parce que, par exemple, nous, on le voit, c'est la terreur des fiscalistes et des comptables, en tout cas majoritairement pour les particuliers, c'est que ces fameuses cessions qu'on doit lister, donc les ventes en euros et les achats de biens ou services, en fait, sur le site des impôts, on peut rentrer que 100 cessions au max. Et donc, si jamais, typiquement, on démocratisait cette technologie et qu'on allait acheter nos baguettes de pain, on payait nos abonnements, etc., par mois, c'est possible qu'on dépasse ces 100 cessions. Et lorsque là, je parle de 100 cessions dans l'année. Donc, si vous dépassez ça, sur le site, vous ne pouvez pas rentrer plus de 100 sessions dans l'année.
Donc, on voit bien qu'il
y a un décalage.
Ouais,
il n'y a pas possibilité de mettre la suite sur papier libre ?
Alors, ça, il faudrait demander à mon associé, mais pour l'instant, je sais que majoritairement, vu qu'ils essaient de simplifier au maximum au niveau des professionnels du chiffre, en envoyant avec des formats, généralement, c'est des formats EDI, où ils envoient tous ces formats de déclaration, ça leur ferait un travail assez lourd, peut-être, de annexer ça sous format papier. Je pense que oui, on doit pouvoir le faire, mais ça serait trop lourd, quoi.
Bon, dans ce contexte, la Paris Blockchain Week, c'est la semaine prochaine. Pauline, ce sera au Carrousel du Louvre, en l'occurrence, et il y aura Emmanuel Macron.
Oui, et il va prononcer un discours spécial, donc c'est selon les termes des organisateurs de la Paris Blockchain Week. A priori, il va parler des stablecoins euros, de l'euro numérique, et on sait déjà qu'il a un peu pris position sur ces sujets. Typiquement, il veut vraiment favoriser l'essor des stablecoins euros face à la dominance des stablecoins dollars. Il est plutôt en faveur de l'euro numérique, ce qui ne plaît pas forcément à l'écosystème crypto. Mais c'est un discours qui sera a priori suivi de près. On attend plus de 10 000 participants à cette édition.
Ouais, sa venue, elle est bien accueillie, mal accueillie. Il a quand même dit quelques trucs favorables sur le secteur. Il est quand même ouvert.
Oui, il est plutôt attendu et bien accueilli. Enfin, en tout cas, il sera plutôt bien accueilli par le secteur. C'est vrai que, comme le rappelaient notamment les organisateurs, il y a plus de 30 milliards d'euros qui ont été alloués durant sa présidence à des services, de l'innovation de pointe et notamment au Web3. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bien accueilli. Et puis globalement, on peut dire que Emmanuel Macron, c'est un chef d'État qui est plutôt pro-blockchain, pro-innovation, qui favorise les cryptos tout en cherchant quand même à les réguler. Enfin voilà, ils peuvent pas. C'est pas un écosystème qui peut se développer comme ça aussi facilement qu'aux US ou ailleurs. Mais il faut quand même toujours être sous le contrôle. Donc c'est un discours qu'on attend quand même plutôt. Qu'on attend la semaine prochaine.
C'est quand même bon signe qu'il y ait un déplacement dans un événement comme ça d'un président de la République.
C'est pas possible que ce soit qu'en vidéo. Trump avait fait un peu la même chose digital asset summit, mais ça reste quand même très important que le président français s'exprime dans le cadre de ce genre de conférence.
Ça veut peut-être dire effectivement que ce sera un sujet à la présidentielle. Il reste 2 minutes, 1 minute 30. J'ai lu que le New York Times savait qui était Satoshi. Bon voilà, ils ont déclaré que c'était Adam Back. Qu'est-ce que vous en pensez, Grégory?
Bah, comme tous les ans. Alors malheureusement, j'ai pas lu l'enquête, mais il paraît que la personne qui, le journaliste qui a fait l'enquête, oui, a bossé pendant un an et demi exclusivement dessus. Donc
c'est un prix Pulitzer, hein.
Ah oui, bah je pense que n'importe quel journaliste qui fait un peu de crypto doit penser que c'est le job de rêve, quoi, parce que c'est un peu l'enquête que tout le monde rêve de faire. Mais bon, je pense que même si Adam Back l'était, il dirait, enfin, il refuserait la paternité de ce projet-là.
Ah bah, il nie tout à fait. Oui, oui. Et en fait, le journaliste dit que c'est parce qu'Adam Back, au moins 10 ans avant la sortie du livre blanc, a déjà communiqué et avait déjà parlé de 5 propriétés du Bitcoin. Donc pour lui, c'est une preuve, quoi.
Oui, oui. Bah après, les travaux d'Adam Back, ils ont été indispensables à la création du Bitcoin. Adam Back est cité en référence dans le white paper de Bitcoin. Donc même si c'est pas lui, Satoshi, il a quand même sa part dans l'histoire du Bitcoin.
Oui, c'est ça. Il en fait partie, effectivement. En tout cas, pour le moment, il en a absolument pas du tout reconnu la paternité. Il reste sur cette position. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Loïc Santel, fondateur de Compta Crypto, Pauline Armandet, journaliste BFM Business, Grégory Raymond, cofondateur The Big Whale. Merci d'être venu. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse et passez une très bonne après-midi sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.